Radio Okapi.
Bienvenue à notre journal sur Radio Okapi. Nous sommes ravis de vous retrouver pour vous présenter les nouvelles les plus importantes de ce samedi. Voici les principaux titres. L'ouest de Goma et le sud du territoire de Nyiragongo, ciblés par une attaque armée farouche, des armes lourdes et légères mises à contribution dans des affrontements opposant les rebelles de l'AFC M23 aux hommes armés apparentés au FARDC au Azalendo. Ce samedi, les rebelles ont renforcé leur présence dans et autour de la ville. Les crises de violences sexuelles en RDC, 10 000 cas de viols et de violences sexuelles recensés en janvier et février 2025 dans le pays par l'UNICEF. Certains des survivants sont des enfants en bas âge. C'est une arme de guerre et une tactique délibérée des terreurs et cela détruit les familles et des communautés, dénonce James Elder, porte-parole de l'UNICEF lors d'une conférence de presse à Genève. Pendant que les discussions se déroulent au Qatar entre le gouvernement congolais et le représentant de l'AFC M23, les combats continuent sur le terrain. Comment résoudre cette crise pour permettre le bon déroulement des négociations? Nous en parlons dans ce journal avec notre invité, Monsieur Emmanuel Kalimouli, analyste politique au Nord Kivu. Restez avec nous pour plus de détails. Gisèle Cage à la présentation de ce journal. Après une nuit agitée et tendue, marquée par des tirs nourris et des détonations d'armes lourdes et légères, ce samedi, la ville de Goma, au Nord Kivu, semble calme. La population reste chez elle, observant l'évolution de la situation. Les quartiers Ndosho, Keshero, Mugunga et la partie sud du territoire de Nyiragongo ont été la cible, provoquant une grande panique parmi les habitants déjà traumatisés qui ont immédiatement cru à la reprise de la guerre. Les autorités de la rébellion à Goma évoquent une incursion de Wazalendo et FARDC-FDLR désormais contenue. Aucun bilan n'est disponible pour le moment. Le point de la situation avec Ronéline Timbonera.
Ce samedi matin, les habitants se réveillent avec la peur au ventre. Chacun observe la situation depuis chez soi tandis que la ville tourne au ralenti. De regroupements s'organisent dans les avenues pour tenter de comprendre ce qui s'est réellement passé. Les grandes artères sont peu animées, la circulation est fluide par endroits, mais une grande partie de la population reste terrée chez elle suivant l'évolution de la situation avec inquiétude. Dans la majorité des écoles situées dans la partie ouest de la ville, les cours n'ont pas repris. Les parents, par mesure de précaution, ont préféré garder leurs enfants à la maison. Les climats qui règne ce matin est marqué par une grande peur, un profond sentiment d'insécurité. Un habitant du quartier Ndosho par téléphone témoigne de la surmilitarisation du quartier. D'après lui, les rebelles lourdement armés ont déployé des hommes en grand nombre et renforcé le mesure des contrôles dans les secteurs. Les entrées et sorties du quartier sont strictement surveillées et les passants sont soumis à des fouilles systématiques. Pour rappel, aux alentours de 22h heure de Goma, des tirs nourris d'armes lourdes et légères ont retenti dans plusieurs quartier de la ville. Plusieurs sources rapportent des affrontements opposant le Wazalendo aux rebelles du M23. Selon ces sources, le Wazalendo, qui aurait tenté une incursion à Ndosho dans l'espoir de reprendre le contrôle de la ville de Goma, se serait heurté à une résistance ferme de la rébellion. À l'heure actuelle, aucun bilan précis n'a été communiqué.
Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF a rapporté hier vendredi que 10 000 cas de viols et de violences sexuelles ont été recensés en janvier et février 2025 en RDC. Les violences sexuelles contre les enfants, particulièrement dans l'est de la République démocratique du Congo, ont atteint un niveau tel que leur utilisation comme arme de guerre n'y fait plus aucun doute selon cette agence. Ces chiffres effroyables s'inscrivent dans le contexte de l'offensive menée depuis le début de l'année par le rebelle du M23 avec le soutien du Rwanda contre le gouvernement de Kinshasa dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Le point avec Jacques-Yves Moulima.
Lors d'une conférence de presse hier vendredi à Genève, James Elder, le porte-parole de l'agence, a clairement indiqué qu'au cours des deux premiers mois de l'année, un enfant a été violé toutes les demi-heures en RDC. Il ne s'agit pas d'incidents isolés, mais bien d'une crise systémique. Certains des survivants sont des enfants en bas âge. C'est une arme de guerre et une tactique délibérée de terreur, et cela détruit des familles et des communautés. a dénoncé Elder qui s'exprimait par visio en conférence depuis Goma, la principale ville du Nord Kivu désormais sous le contrôle du M23. La crise est probablement pire que ne le suggèrent les chiffres rapportés par l'UNICEF. Selon le porte-parole, la stigmatisation, la peur et l'insécurité font que de nombreux cas ne sont pas signalés. Face à l'ampleur des violences sexuelles en RDC, Elder a souligné l'urgence d'une intervention de la communauté internationale. Cette situation désastreuse est exacerbée par une baisse de l'aide à destination du pays où l'accès des survivants à des soins médicaux, un soutien psychologique et une assistance juridique est gravement entravé par les coupes budgétaires. Si le déficit de financement n'est pas rapidement comblé, l'UNICEF estime que 250 000 enfants seront entièrement privés des services essentiels pour leur protection au cours des 12 prochaines semaines seulement.
Parlons santé. Depuis le début de cette année, plus de 1600 cas de choléra, dont 29 décès, ont été enregistrés dans les zones de santé de Kalemie et Nyemba, couvrant la ville et les territoires de Kalemie, selon le ministre provincial de la Santé du Tanganyika, qui s'est exprimé hier devant la presse. Ce chiffre sont 6 fois plus élevés que ceux de l'année dernière. Pour améliorer la prise en charge des malades, le gouvernement provincial a fourni un lot d'intrants médicaux. Écoutons le docteur Benoît Moulumbi, ministre provincial de la Santé du Tanganyika, dans cet extrait sélectionné par Paulin Munanga.
Depuis les débuts de l'année jusqu'à ce jour, nous sommes à la 14e semaine. La province enregistre plus de 1600 cas de choléra, dont 29 décès. Si vous comparez les données de cette année aux données de l'année passée, c'est 6 fois plus élevé que les données de l'année passée. Ce qui veut dire que la recrudescence ou bien la flambée de l'épidémie de choléra est à grande puissance comparativement à l'année passée. Donc il a fallu une mesure aussi à la hauteur pour, n'est-ce pas, essayer de limiter la progression de l'épidémie et aussi réduire au maximum les taux des décès. Par rapport aux mesures d'hygiène, c'est entre autres, c'est laver les mains régulièrement avant et après le repas. C'est laver les mains si on doit aller aux toilettes avant et après. Il faut boire de l'eau potable. Ça, c'est parmi les stratégies. Une autre stratégie, c'est lancer, n'est-ce pas, un plaidoyer auprès de nos partenaires techniques et financiers parce que les facteurs qui entretiennent l'épidémie de choléra, entre autres, ce sont les inondations.
Ce vendredi marque le 2e jour de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Nous sommes dans la province du Maniema. Jusqu'à présent, la campagne se déroule normalement. Pendant ces temps, tous les partenaires techniques et financiers se mobilisent comme un seul corps pour assurer le succès de cette activité qui se poursuivra jusqu'au 14 avril. Selon leurs représentants, l'objectif est de parvenir à un Maniema exempt de poliomyélite. Écoutons le docteur Mahadou Ouba, coordonnateur provincial de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite à l'OMS, au micro de Florence Kizalunga.
Suite à la confirmation d'un cas de poliovirus circulant variant de type 1 dans la zone de santé Loa, province de la Tchopo, une campagne de riposte ciblée est lancée dans 29 zones de santé, dont 6 zones de santé de Maniema, en raison de leur proximité avec Loa. Cette riposte, planifiée pour 5 jours avec des jours de ratissage possibles, est une réponse localisée basée sur l'analyse de risque. Elle utilisera le vaccin VPO bivalent. Les enquêtes de l'école de santé publique de Kinshasa de 2023 montre que la province avait une faible couverture vaccinale, soit 13% d'enfants complètement vaccinés, de nombreux villages mal couverts et a connu des épidémies antérieures. La proximité du cas confirmé dans la Tchopo représente un risque élevé pour le Maniema qui a déjà été touché par des épidémies de civilipivi depuis 2021. L'objectif de cette campagne est d'éradiquer la poliomyélite et de protéger les enfants des 18 zones de santé contre cette maladie paralysante. Pour ce faire, les partenaires sont unis dans cet engagement et sont convaincus qu'avec la collaboration de tous, l'objectif d'un Maniema exempt de la poliomyélite sera atteint.
Et pour boucler ce chapitre, ce vendredi, dans la ville de Beni, chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu, la clinique médicale du contingent indien de la MONUSCO a sensibilisé 68 détenues femmes de la prison de Beni à la lutte contre le VIH-Sida, organisée par l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO. Cette activité avait pour objectif de montrer à ces femmes les différents modes de transmission et de prévention de cette maladie qui continue de faire des victimes à travers le monde. Pour certaines détenues, cette sensibilisation était une nouveauté et elles ont félicité la MONUSCO pour avoir pensé à elles. Yvonne Kavira Mwanaki, surveillante de cette maison de correction, a pris la parole au nom des femmes détenues de la prison de Beni au micro de Guylaine Kassassia.
À travers cette sensibilisation, la MONUSCO a voulu que ces femmes sachent comment se protéger contre le VIH-SIDA, car une fois libres, elles ne doivent plus être victimes. Cette présence ici à la prison prouve que ces femmes ne sont pas rejetées, ce qui nous rejoint aujourd'hui. À cette occasion, on leur a aussi appris l'assainissement et l'hygiène corporelle pour éviter d'attraper différentes infections. C'était aussi un bon moment de sensibilisation, car la vie ne se limite pas seulement à la prison. Après leur sortie, elles doivent vivre en bonne santé. Voilà pourquoi cette séance était très importante. Ce n'est pas la première sensibilisation. Elles ont déjà appris plusieurs autres activités, comme la fabrication du savon, ainsi que des sensibilisations contre les viols. Nous remercions beaucoup la MONUSCO pour toutes ces activités, car dans le passé, les femmes détenues étaient délaissées.
À la fin de cette sensibilisation, le contingent indien de la MONUSCO a distribué des vivres et des articles non alimentaires aux détenus, notamment des vêtements et des couvertures. Lors du Conseil des ministres du 11 avril, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a fixé le nouveau tarif du passeport biométrique ordinaire à $75, environ 215 000 francs congolais. Cette mesure présentée par le porte-parole Patrick Muyaya dans le compte-rendu remplace l'ancien prix de $99 instauré en 2019 afin de garantir à chaque citoyen le droit fondamental de circuler librement sans entrave financière. Suivez cet extrait choisi par Karine Topé-Ridassi.
Aujourd'hui, dans la même dynamique, avec la ferme volonté de rendre ce document essentiel encore plus accessible, le président de la République a pris la décision, après analyse des différents paramètres lui présentés, de ramener les prix du passeport ordinaire biométrique à l'équivalent de $ américains, $75. Son exécution devra se faire avec rigueur, équité et responsabilité en tenant compte des éléments suivants. La préservation des engagements contractuels en cours afin de maintenir la crédibilité de l'État et sa capacité à honorer ses obligations essentielles. La sauvegarde de la paix sociale en évitant toute démarche brusque ou précipitée susceptible d'affecter les agents impliqués dans la chaîne de production et des délivrances de passeports dont le rôle reste crucial. Par ailleurs, il est attendu que la ministre d'État en charge des affaires étrangères soumet dans les meilleurs délais au gouvernement un calendrier clair et détaillé de mise en œuvre, comportant notamment la date précise du lancement officiel du nouveau passeport ordinaire biométrique avec la nouvelle tarification.
En Ituri, le gouvernement provincial a reçu hier vendredi 4 ambulances pour faciliter le transfert des malades dans différentes zones de santé à Djougou et Irumu, ainsi que des agents de la direction provinciale de la Croix-Rouge. Ces dons offerts par l'ONG internationale Médecins sans frontières dans le cadre du projet Réponse chirurgicale pour la prise en charge des malades souffrant de traumatismes et des blessures physiques est salué par les bénéficiaires. Il indique que ces gestes vont améliorer la prise en charge rapide de malades, en particulier des blessés dans ces zones affectées par l'activisme de groupes armés. Le point avec Ezekiel Mousailia.
Il s'agit entre autres des zones de santé de Jiba, de Mungwalu dans le territoire de Djougou, mais aussi de Komanda en Irumu, des entités qui accueillent presque chaque jour des malades, en majorité des victimes des atrocités des groupes armés en province. Un autre véhicule est remis à la direction provinciale de la Croix-Rouge pour faciliter les interventions des secours et premiers soins. Le médecin chef des zones de santé rurales de Jiba indique que ces dons arrivent à point nommé au regard du contexte sécuritaire préoccupant où plusieurs cas de maladies sont des blessures physiques suite aux conflits armés. Docteur Patrick Ngona.
Nous nous retrouvons avec des blessés graves. Il faut des fois évacuer rapidement. Nous trouvons que cet appui peut facilement nous aider et permettre à ce que nous puissions évacuer les malades pour la continuité des soins.
Le gouverneur des provinces intérimaires demande aux bénéficiaires d'en faire bon usage et surtout de ne pas considérer ces véhicules comme un bien personnel. le général Raïs Tchaloui.
Ce n'est pas pour mettre la braise. Dès qu'on a un bien que tu ne sais pas combien ça coûte, on travaille comme un bien abandonné.
D'autres zones de santé en Ituri sont inaccessibles à la suite de l'impraticabilité des routes qui rend difficile la prise en charge sanitaire des personnes affectées par la crise sécuritaire en province. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Retour à Kinshasa. Ce samedi matin, les habitants du quartier Mitendi sont descendus dans la rue, bloquant la route nationale numéro 1 à la hauteur de leur quartier. Ils exigent des travaux de grande envergure pour stopper la progression d'au moins 7 têtes d'érosion qui menacent leur quartier dans la localité des Kimvula. Lors des pluies de 4 et 5 avril dernier, plusieurs habitations ont été englouties, causant même de pertes humaines. Le chef de cette localité, au nom de la population, plaide pour les travaux d'urgence. Écoutons-le au micro de Fideli Tchela.
Maintenant, le problème auquel je suis buté, ce sont des érosions. J'ai cette tête d'érosion qui vont bientôt arracher même la route où Stanley a été passé pour aller au Mont Gafula. Nous sommes menacés par ça. Et si nous partons vers Massika, là, trois têtes d'érosion montent très gravement. Ils ont arraché déjà plus de 56 maisons. De l'autre côté, là encore, il y a des érosions qui montent. Donc, aujourd'hui, si nous ne faisons pas attention, la cité de Kimvula sera effacée complètement de la République démocratique du Congo. Vraiment, nous devons faire attention. Je voudrais que les chefs vraiment interviennent avec les autorités ici. Pas passer par l'intermédiaire.
Actualité internationale.
Les premiers électeurs ont commencé à voter samedi au Gabon, choisissant le nom de leur futur président entre 8 bulletins, 19 mois après le coup d'État qui a marqué la chute de la dynastie Bongo. Les files d'attente s'étaient formées avant l'ouverture des bureaux de l'école pilote où devrait en principe voter le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, ancien chef de la garde républicaine, meneur du putsch d'août 2023 et grand favori du scrutin. Quelques 920 000 électeurs sont attendus jusqu'à 18h dans 3 037 bureaux. Des votes pour ces scrutins à l'origine annoncés pour le mois d'août et finalement anticipés. Le régime de transition ayant opté pour le calendrier resserré, la campagne électorale n'a duré que 13 jours. La journée est fériée, le transport public sont gratuits.
L'invité.
La nuit de vendredi à samedi a été marquée par des tirs nourris traumatisant la population de Goma et aux alentours. Pour en discuter, nous accueillons Monsieur Emmanuel Kalimouli, analyste politique au Nord Kivu. Il analysera le fait et proposera des solutions pour résoudre cette crise. Il répond aux questions de Rosalie Zawadi.
Monsieur Emmanuel Kalimouli, bonjour.
Bonjour, madame les journalistes.
Comment analysez-vous ce qui s'est passé à Goma dans la nuit de samedi à ce dimanche?
Madame, c'est atroce. Parce que la guerre, c'est un événement qui n'est pas souhaité par tout le monde, à part le démon. Malheureusement, les États réagissent et veulent arranger leurs problèmes à travers la guerre. Et nous savons qu'il y a aussi plusieurs façons de mettre fin à la guerre. La première, c'est de manière politique. La seconde, c'est de manière diplomatique. La voie diplomatique, c'est la meilleure, madame le journaliste, parce que ça évite les baies de sang. En République démocratique du Congo en général, et à province Nord Kivu, à province du Sud Kivu, à province de l'Ituri en particulier, les sang coule. Nous pensons que ce n'est pas une bonne chose de faire la guerre. C'est une très 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 mauvaise chose, chercher à résoudre les problèmes par la guerre. Il faut qu'on change de stratégie. On doit dialoguer pour mettre fin à un conflit. C'est ça la voie la plus souhaitable. Donc, ce qui se passe à Goma, ce n'est pas bon, c'est une mauvaise chose. Nous condamnons cela.
Et à votre niveau, comment vous analysez les conditions dans lesquelles vivent les habitants de Goma aujourd'hui?
C'est vraiment atroce. À Goma, le peuple souffre. Le peuple ne sait plus à quel sens se vouer. Les peuples se mettent à tout moment sous les lits. Sortir, circuler, c'est devenu un problème. C'est la peur. Les gens ne sont pas tranquilles. Les gens sont psychologiquement instables, sont psychologiquement malades. Et pourquoi pas physiquement? Parce que les traumatismes psychologiques a des implications négatives sur la situation physique ou physiologique d'un homme.
À ce stade, quelle serait, selon vous, la meilleure option à proposer aux acteurs impliqués dans cette crise pour y mettre un terme?
Alors, je venais en liminaire d'évoquer les aspects diplomatiques, les dialogues. Mais la République démocratique du Congo, agressée par le Rwanda, soutenue par le M23 et l'AFC, on voit qu'il y a déjà l'agression qui est là. Et il y a différentes résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui répriment cela. Moi, je pense que les grands de ce monde, les puissances de ce monde devaient agir pour mettre fin à cette crise qui n'a que trop duré. Plusieurs fois, le M23 est entré à Goma et par voie diplomatique, surtout les grandes puissances avaient agi, on avait demandé au M23 de sortir. Pourquoi pas maintenant? S'il s'agit des problèmes des richesses du sol et du sous-sol de la RDC, les Rwanda, les grandes puissances, les M23, n'a qu'à rencontrer les autorités pour voir comment on peut arranger ces problèmes. Mais je me rappelle que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et dès sa prise de pouvoir, avait dit qu'il y avait plusieurs contrats léonais en matière minière et qu'il fallait revisiter, repenser ces contrats-là. Je suis en train de voir que c'est ces contrats qui seraient la pomme de discorde.
Monsieur Emmanuel Kalimouli, je rappelle que vous êtes un analyste politique dans la province du Nord Kivu. Merci.
Rosalie Zawadi s'entretient avec Emmanuel Kalimouli, analyste au Nord Kivu. C'est tout pour ce journal. La mise en onde a été réalisée par Polydor Basunga, la coordination par Jacques-Yves Molima et présentation par Gisèle Cage. Nous vous remercions de votre fidélité et de votre attention. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux pour rester informés en temps réel sur Facebook, TikTok et X. Je vous retrouve demain sur la même fréquence et d'ici là, portez-vous bien et passez un excellent week-end.